France Culture. Les nuits de France Culture.
L'essence de l'âme. Là est le profond silence, car là n'a jamais pénétré aucune créature, ni quelque image que ce soit. Là n'arrive plus à l'âme ni action, ni connaissance. Là, elle ne sait plus rien, d'aucune image, ni d'elle-même, ni d'aucune créature. Chez le mystique rhénan Maître Eckhart, c'est dans cette essence de l'âme, dans le silence complet de l'immanence sacrée, que peut se faire la communion avec Dieu. Il n'y a là plus aucune identité, plus aucune réflexivité, simplement l'essence de l'individu qui fusionne avec celle de Dieu. Si la théologie de Maître Eckhart est considérée par l'Église comme hérétique, à tel point qu'il est condamné par le pape Jean XXII dans la bulle In Agro Dominico en 1329, il a pourtant saisi le rôle essentiel du silence dans toute mystique chrétienne. La méditation, la prière, le recueillement, mais aussi toute expérience individuelle de Dieu nécessite une coupure totale du monde extérieur, un silence sacré par lequel on se vide pour atteindre Dieu. C'est ce qu'explique le professeur Jean Val, le père Michel de l'abbaye de Melleret et sœur Jeannie de la Merci Dieu, dans ce numéro de Visage du silence de Monique Ruissen. Première diffusion le 22 février 1973 sur France Culture.
C'est très difficile d'avoir quelque chose qu'on avait autrefois. Par exemple, cette chambre, qui était un modèle de silence, reçoit des tas de bruits de la rue, des perceuses automatiques, etc. Évidemment, ici, c'est sur la rue. Mais autrefois, j'avais, de mon côté de l'appartement, sur la cour, j'avais le silence. Mais depuis, c'est changé. Des ouvriers travaillent et font un bruit qui est vraiment impossible à supporter. C'est de moins en moins facile d'avoir le silence.
Mais est-ce que vous croyez, professeur, à la vertu du silence pour le fonctionnement de la pensée? Est-ce que quelquefois le bruit n'est pas une certaine émulation? Et est-ce que le silence est créateur ou créatif, si je peux me permettre ce mot?
Le silence n'est pas créateur par lui-même. Il est une des conditions de la création. Si un grand poète, mettons Vigny, qui a écrit « Les grands espaces muets longuement s'étendront », médite, c'est désirable qu'il médite dans le silence. Les idées sont interrompues forcément par tous les bruits qui adviennent et rompent le silence. C'est ici qu'il y a quelque chose de nouveau, sur quoi vous appelez vos latins, sur... Le silence intervient dans le cours même des pensées. Et les pensées se nourrissent du silence. C'est en pensant à cela que j'ai fini, que j'ai terminé mon traité de métaphysique par une sorte d'invocation au silence. Naturellement, il y a un moment où les paroles cessent, où les bruits cessent. Et alors ce qui advient, c'est parfois, afin de laisser être suggéré de nouvelles paroles, j'ai le silence. Ou alors le son harmonique, le son d'un trio, d'un quartet, peut être un stimulant. Ça dépend un peu des personnalités, des âmes, des corps. Proust aimait bien se faire jouer des quatuors de Beethoven. La petite phrase, célèbre par lui, la petite phrase du quatuor, est quelque chose sur quoi il a réfléchi. Donc, il a réfléchi sur des sons, comme il a réfléchi d'autre part sur des peintures comme celle du XVIIIe siècle, de Titien, de Tintoret, de Chardin. Naturellement, à l'église aussi, il y a silence. Et là, le silence est assez profondément lié à la religion, lié au texte latin de la messe, qui reste toujours comme fond de la méditation religieuse.
Est-ce que vous pensez, professeur, que le silence, qui est voulu et qui est une règle de certains ordres religieux, peut apporter à l'homme?
Oui, certainement. Nous sommes dans un moment de crise, où beaucoup de valeurs s'effondrent, où beaucoup d'autres valeurs se forment. Je mets le silence parmi les valeurs à préserver. Je n'ai jamais été à la trappe, mais je conçois qu'il y a là quelque chose qui doit être préservé.
Bien sûr, le silence de la trappe est une valeur à conserver, mais je pense qu'il faut voir autre chose derrière le silence matériel qui nous est fourni dans le cadre d'une abbaye. Je crois qu'il faut beaucoup plus chercher ce côté spirituel du silence, ce silence qui nous amène à Dieu, par lequel nous allons vers lui, et qui n'est pas du tout un silence matériel. Dieu parle beaucoup. Il faut savoir l'écouter et lui parler aussi, parce que Dieu est un être vivant et nous vivons avec lui. Mais je crois qu'il faut laisser tomber tout à fait ce folklore du silence de la trappe tel qu'on en a parlé, Chateaubriand en particulier, racontant que lorsque les religieux se rencontraient, ne disant simplement « frère, il faut mourir » et... Non, ce n'est pas du tout ça, notre silence. Notre silence est plein de bruit, au contraire. Plein de cette recherche de Dieu et de cette rencontre avec Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit Saint Bernard, le grand cistercien, lorsqu'il écrit « Tu désires voir, écoute d'abord. L'audition est un degré vers la vision. Aussi écoute et incline ton oreille, afin que par obéissance de l'ouïe, tu parviennes à la gloire de la vision. » Et Saint Benoît lui-même, au début de sa règle, commence par ces mots qui sont merveilleux. Écoute, ô mon fils, l'avertissement d'un père plein de tendresse et incline l'oreille de ton cœur. Car nous sommes dans une école, nous nous sommes mis à l'école de Dieu et nous sommes là pour écouter le maître qui nous parle.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Simone Veil? Celui qui est capable non pas seulement de crier, mais aussi d'écouter, entend la réponse. Et cette réponse, c'est le silence. C'est ce silence éternel que Vigny a reproché amèrement à Dieu, mais il n'avait pas le droit de dire quelle est la réponse du juste à ce silence, car il n'était pas injuste. Le juste aime. Celui qui est capable non seulement d'écouter, mais aussi d'aimer, entend ce silence comme la parole de Dieu.
Oui, ce que dit Simone Veil, elle parle du silence en tant que représentation de Dieu. Dieu ne crie pas. Il faut savoir l'écouter, être tout près de lui. Et c'est un silence qui parle beaucoup.
Et Simone Veil continue, « Notre âme fait continuellement du bruit, mais il est un point en elle qui est silence et que nous n'entendons jamais. » Quand le silence de Dieu entre dans notre âme, la perce et vient rejoindre ce silence qui est secrètement présent en nous, alors désormais nous avons en Dieu notre trésor et notre cœur. Et l'espace s'ouvre devant nous comme un fruit qui se sépare en deux, car nous voyons l'univers d'un point situé hors de l'espace.
Il n'y a pas de cloisonnement dans notre vie. Il n'y a pas un temps où on s'arrête et un temps où on continue à aimer Dieu. L'amour est une chose continuelle, et le silence de l'amour est une chose qui se répand du matin au soir.
Il y a bien sûr chez nous des temps beaucoup plus forts de silence, je pense en particulier à la nuit, où c'est vraiment un temps, on n'a pas envie de parler, on veut écouter Dieu. Mais toute notre vie est orientée vers cette vision de Dieu, cette recherche de Dieu, et il faut avoir le cœur amoureux pour être moine, je crois. Parce que on ne peut pas écouter Dieu et puis avoir l'esprit pris par des tas de soucis. Bien sûr, on est obligé de travailler, d'avoir des soucis. Nous vivons au XXe siècle, on ne peut pas avoir une muraille qui nous sépare absolument et nous fait vivre dans un autre siècle. Non, il faut être du XXe siècle, mais c'est dans notre cœur, justement, qu'il faut avoir cette pointe de silence. Je n'aime pas beaucoup ce mot de silence parce qu'on voit trop le côté matériel du silence. C'est beaucoup plus cet épanchement d'un cœur à l'autre et qui se passe. Je crois que c'est l'amour.
Je pense qu'il faudrait distinguer dans les divers temps de la vie religieuse. Ceux qui arrivent dans une vie monastique ont besoin d'un silence matériel et d'une éducation au silence. Une éducation à ne dire que les choses nécessaires, une éducation à ne pas être bruyant inutilement, parce que cette éducation, nous ne l'avons plus dans la vie habituelle. Et quand on a déjà pris contact avec Dieu, le silence matériel se fait tout seul. On devient silencieux, presque, je dirais, par tempérament.
Mais comme dans toute vie, il faut une éducation et il n'y a rien de plus beau d'ailleurs que les vieux moines au seuil du grand passage qui sont épanouis, paisibles, parce qu'ils ont trouvé ce silence de Dieu et cette solitude avec Dieu, justement, cette solitude qui est très pleine. Vous voyez, ce que disait Gilbert de Walland, un grand cistercien du XIIe siècle, c'est ce silence et cette simplicité qui nous fournissent l'occasion de nous transformer, allant de clarté en clarté, en l'image même du Seigneur que nous contemplons comme un visage découvert sous l'influence de l'Esprit même de Dieu. Consacré à un tel usage, notre silence vous paraît-il silence et inertie? C'est en lui qu'on apprend et qu'on pratique le grand art d'aller en ligne droite vers Dieu. Je crois que ce texte est très symptomatique et montre bien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, je pense que l'aboutissement du silence matériel, c'est un silence dans sa volonté. Il y a une adhésion de la volonté de celui qui vit avec la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est le silence. C'est une coïncidence de deux volontés. D'ailleurs, dans l'amour humain, c'est la même chose. Je crois que quand il y a un moment où dans un amour humain, on coïncide parfaitement, on n'a plus besoin de mots pour s'exprimer. Et c'est ça qui est vraiment le silence. C'est toute la volonté qui se trouve prise par Dieu.
Dans toutes les religions, je crois, quand elles sont poussées à leur maximum, à leur extrême, dans la rencontre avec un Dieu, je crois qu'il y a des règles de silence. Par exemple, les lamas, Milarepa, insistaient beaucoup sur le silence. Et il était même tombé, puisqu'il était en ermitage, dans un tel silence qu'il était devenu incapable de communiquer avec même les animaux qui étaient autour de lui. Tout se passait à travers cet énorme silence de l'ermitage.
Alors là, je pense que c'est impossible dans le christianisme, parce que la relation à Dieu, pour nous, passe obligatoirement par l'autre. Et plus un moine se pacifie, plus une religieuse se pacifie, plus elle arrive à être silencieuse et unie à Dieu, plus elle est immédiatement en contact avec les autres. Parce qu'elle se fait taire elle-même et elle écoute les autres. Et
elle est la relation entre l'homme et Dieu, presque. C'est une... je crois.
C'est très difficile à exprimer. Le fait d'aimer Dieu nous oblige à aimer les autres. C'est impossible de séparer l'amour de Dieu et l'amour des autres. Dans le christianisme, ça ne se conçoit pas.
D'ailleurs, il n'y a qu'à reprendre les évangiles où on voit le Christ qui part 40 jours dans le désert pour se remettre avec Dieu, mais qui revient après vers ses frères. Et il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, au premier livre des Rois, la vision de Élie à l'Horeb, la rencontre avec Dieu. Élie se met dans une grotte et Yahvé lui dit « Tu sortiras lorsque je passerai ». Et il y a d'abord le grondement du tonnerre, le fracas du tonnerre et le tremblement de terre. Et Élie dit « Dieu n'était pas là ». Puis ensuite il y a le souffle du vent, les rafales de vent, la tempête. « Dieu n'était pas là ». Ensuite Élie entendit le bruit du zéphyr et il dit « Dieu est là » et il sortit pour voir Dieu. D'ailleurs, Élie avait quitté les Juifs, ses frères, parce qu'il en avait par-dessus la tête de toutes leurs histoires. Et c'est après avoir retrouvé Dieu sur l'Horeb et l'avoir vu dans le Zéphyr que Yahvé lui dit « Va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas, tu iras oindre Azaël comme roi d'Aram. » Et il reprend sa vie de tous les jours de prophète et de chef pour ses frères juifs. Évidemment, il faut voir toute la poésie de ce texte, mais je crois que Dieu ne peut pas se manifester dans les éclairs et le tonnerre. C'est justement ce zéphyr, savoir écouter le zéphyr.
Le silence religieux, c'est un silence actif, c'est un silence qui sait écouter.
C'est un silence qui n'est que écoute. C'est absolument pas un repliement sur soi ou la recherche d'une certaine paix. C'est quelque chose de dynamique qui conduit vers Dieu, qui obligatoirement passe par les autres et conduit aux autres.
Dans notre monastère, nous recevons des quantités de personnes, et en particulier le dimanche après-midi, il passe entre 1000 et 1200 personnes qui n'ont pas le droit de rentrer dans le monastère. Mais les gens, nous avons l'impression qu'ils viennent chercher quelque chose. Ils sont attirés par peut-être ce silence, justement, peut-être sentent-ils Dieu, sentent-ils ce zéphyr, justement, qui passe sur ce lieu. Et je suis frappé que dans les autres monastères de France où j'ai pu me rendre, c'est exactement la même impression qu'on a.
Mais alors, quelquefois, les gens recherchent un lieu de silence pour le silence matériel lui-même, qui les impressionne, qui les aide à réfléchir. Et ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ne savent pas en quoi consiste notre silence à nous à longueur de vie.
J'appellerai pour moi Dieu ma justice. Toi qui laisseras mon angoisse, en pitié de moi, écoute ma prière. Et tous les hommes, jusque la main se méprise de ma croix, ce goût de violence, cette course au mensonge. Sachez-le, le Seigneur a discerné qui lui est fidèle. Il a ton corps.
C'était Le silence des mystiques est-il à préserver ? Un numéro des Visages du silence de Monique Ruissen avec le professeur Jean Val, le père Michel de l'abbaye de Melleret et sœur Janie de la Merci Dieu. Une émission diffusée pour la première fois le 22 février 1973 sur France Culture.